Bonsoir. Pour parler de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23, le mouvement rebelle a levé la mesure conditionnant la poursuite des négociations, à savoir la signature d'un accord de cessez-le-feu. Pendant ces temps, l'Union africaine vient d'adopter à Addis Abeba la mise en place d'une force internationale neutre de 4000 hommes dans l'est de la RDC. Et quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 10 janvier 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat François Ntekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Monsieur Ntekouye, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Kouté.
Maître Juvénal Mounoubo, député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. Maître Juvénal, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Philippe Biyoya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Voilà, on peut... Il faut dire avec lui ça.
Si professeur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Okapi. Apparemment, il ne nous entend pas. Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Didi Mondonga de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Lorsque les rebelles commencent à se discipliner, comme c'est le cas du M23, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en son sein. En ce moment, la RDC se trouve en position de force tant politiquement que militairement. La seule chose qui reste pour les M23, c'est la ruse. Que le gouvernement congolais fasse très attention. Richard Wosso de Walika, au Nord Kivu, la levée ou pas de la mesure par le M23 n'est qu'une distraction, car je ne crois pas en ces négociations de Kampala, tout comme en la force internationale neutre, que les Congolais cherchent des solutions à l'interne, notamment au renforcement de la cohésion nationale et à la réforme par le gouvernement de son système de défense, au lieu de se laisser distraire. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Dialogue de Kampala, le M23 accepte de poursuivre le dialogue malgré l'absence d'un accord cessez-le-feu avec le gouvernement congolais. Déclaration faite mardi dernier par le secrétaire exécutif et chef de la délégation du mouvement, François Ruchogoza. C'était lors d'une conférence des presse dans la capitale ougandaise. Il décrète ainsi un cessez-le-feu unilatéral face au refus de Kinshasa. Jules Ngala, notre envoyé spécial à Kampala, pour le détail.
Dès à présent, le M23 est prêt à poursuivre les négociations sur les points inscrits à l'ordre du jour, a déclaré cet après-midi à l'hôtel Silver Springs de Kampala, François Ruchogoza. Le chef de la délégation du M23 à Kampala justifie sa position par la détermination de son mouvement à, je cite, « respecter de manière unilatérale la déclaration des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CIRGL ». Mais les rebelles sollicitent le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, justement, à travers la médiation ougandaise, de vérifier les allégations faisant état, selon François Ruchogoza, des préparatifs de la guerre par le gouvernement de Kinshasa, c'est aussi une citation. Rouverte officiellement depuis le 5 janvier dernier à Kampala, les négociations de paix entre le gouvernement congolais et M23 n'avaient pas connu de pourparlers directs en termes de séance plénière. La rébellion réclamait un accord de cessez-le-feu, ce à quoi le gouvernement refusait de céder. De Kampala, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Merci Jules Ngala pour ce reportage qui a été réalisé mardi dernier. François Ntekouye, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. C'est un parti politique de la majorité. Comment vous analysez-vous cette décision du M23 de poursuivre les dialogues malgré l'absence d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement comme ce mouvement l'avait demandé?
D'abord, je considère cela comme une preuve que l'M23 n'est pas une entité autonome, mais qu'il répond des ordres venant des pays étrangers. De deux, que l'M23 se rend compte que ce que nous lui avons dit depuis toujours, qu'elle est une force négative et qu'un gouvernement élu issue des élections, je veux dire, ne peut pas signer un cessez-le-feu avec une force négative. Et les Nations Unies ont confirmé notre thèse en qualifiant les M23 comme force négative et même comme force terroriste. Et donc, les M23 se rendent compte qu'il est en train, petit à petit, d'aller vers les murs et que il ne lui reste qu'une petite porte de sortie, c'est celle d'accepter de dialoguer avec le gouvernement pour obtenir ne fût-ce que l'effet que ces éléments ne soient pas condamnés comme leurs leaders. Parce que tous les leaders du M23 aujourd'hui sont des personnes qui doivent être attrées à la Cour pénale internationale et que il reste quand même un certain nombre d'entre ces troupes qui s'inquiètent pour leur sort. Et donc il faut négocier quelque chose qui pourra permettre une issue tant soit peu heureuse, ou comme disent les juristes, des mesures atténuantes face aux forfaits qu'ils ont commis, et c'est pour cela qu'ils acceptent, parce qu'ils nous ont dit avant que nous allions...
Est-ce que vous voulez dire par là qu'aujourd'hui les M23 se retrouvent en position de faiblesse?
Absolument, les M23 est en position de faiblesse. Les M23 croyaient être en position de force, parce que les pays qui les soutenaient lui disaient « allez-y ». Aujourd'hui, les pressions qui sont exercées sur l'Ouganda et le Rwanda sont telles que tout le monde sait que le Rwanda soutient les M23 et que des injonctions claires, vous vous rappellerez du coup de fil du président Obama à Kagame, qui lui intimait l'ordre de cesser tout appui au M23. Donc, quand on intime l'ordre à quelqu'un pour cesser tout appui, c'est-à-dire qu'on connaît que cette personne-là avait un appui quelconque vis-à-vis de ces mouvements. Alors, dès lors que le président Kagame, étant une marionnette des États-Unis, a obtempéré à l'ordre des États-Unis, il est clair que le M23 ne peut pas vouloir faire tête au gouvernement congolais parce qu'ils se disent, s'ils font tête, leur sort va être plus aggravé.
Alors on va prendre pour vous, François Nsekouye, cette réaction qui nous vient de Vienne en Autriche.
Franck Monnier, à partir de Vienne en Autriche, nous sommes en train de constater que les membres du M23 sont à la recherche d'une certaine légitimité et reconnaissance juridique. Et la neutralité même du médiateur ougandais, Museveni et son gouvernement, ne rassure aucun Congolais averti. Ces soi-disant membres du M23 qui se disent compatriotes des citoyens congolais partent de changement en changement, de surprise en surprise dans leur cahier de charge, et des Congolais avertis ont du mal à croire même à leur bonne volonté. Ceux qui représentent l'État congolais et le gouvernement doivent rester lucides et sereins, surtout miser sur le vrai patriotisme pour ne pas se faire piéger. Car pour le président américain, ce mouvement du M23 est déjà rangé sur la liste des groupes terroristes. Leur cessez-le-feu qu'ils venaient de décréter de manière unilatérale cache bien des choses. C'est comme un marché de dupes.
Alors, honorable François Nsekouye, ces cessez-le-feu déclarés par le M23 cacherait-il quelque chose derrière?
En fait, ce que je viens de vous dire, les M23 voulaient effectivement négocier le cessez-le-feu pour se faire légitimer. Parce que si nous signons le cessez-le-feu, ça voudrait dire que nous considérons les M23 comme un partenaire, ce que nous avons refusé. Des deux, ça dédouanerait le Rwanda et l'Ouganda qui sont leurs parrains. Parce que la communauté internationale entendrait par cet accord de cessez-le-feu que le Rwanda et l'Ouganda n'y sont pour rien parce qu'il y a un cessez-le-feu entre parties congolaises. Ce qui n'est pas le cas et nous avons refusé catégoriquement une telle hypothèse. Parce que nous estimons aujourd'hui que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. Et s'il peut y avoir une discussion sérieuse à faire, ce sera avec le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils nous disent pour quelles raisons ils nous agressent et leur demander des comptes pour pouvoir dédommager la République démocratique du Congo sur tous les méfaits qu'ils ont commis. 6 millions de morts, c'est quand même la population du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la République centrafricaine réunies qu'ils ont tué au Congo et nous devons un jour leur demander de payer cela. Non seulement en termes financiers, nous avons de l'argent comme pays, mais d'être condamnés, les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice, être condamnés pour que plus jamais
des personnes prennent les armes contre d'autres citoyens pour des raisons simplement matérielles.
Alors certains analystes ou certains observateurs disent que le M23 aurait négocié déjà avec le gouvernement congolais certains postes que les membres du M23 occuperaient à Kinshasa. C'est comme ça qu'ils ont décidé, c'est le feu unilatéral.
Non, je ne crois pas. Je suis de la majorité présidentielle pour commencer et pas n'importe quel cas de la majorité présidentielle. Je suis conseiller principal secrétaire de la majorité présidentielle. Je suis cadre du parti le plus important de la majorité présidentielle qui est le PPRD. Et les gens le disent et c'est vrai parce qu'en tant que conseiller principal secrétaire de la majorité présidentielle, je suis proche du président de l'Assemblée nationale. Je serai quand même informé si de telles choses se faisaient. Mais nous avons dit que nous n'accepterons plus jamais que les porteurs des armes puissent être rétribués en termes de postes. Nous avons accepter que la démocratie soit la règle. Nous sommes engagés sur cette voie. Il y a eu des premières élections en 2006, nous en avons eu en 2011. Ceux qui veulent diriger ces pays doivent passer par la voie des urnes. Il y aura des élections provinciales bientôt, il y en aura sénatoriales, il y aura des élections de gouverneurs. Ceux qui croient qu'ils ont une certaine légitimité populaire, qu'ils aillent aux élections. C'est la seule manière que nous acceptons aujourd'hui.
Merci.
Plus jamais des primes aux porteurs des armes, ce qui est une honte et un crime vis-à-vis des 6 millions de personnes.
Merci, honorable Nsekouye, maître Juvenal Mounoubo. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. La décision du M23 est-elle une surprise pour vous?
Je voudrais tout d'abord saluer l'honorable Nsekouye. Je salue également les professeurs Bioya, avec qui je participe dans cette émission. Je voudrais aussi condamner la guerre à l'Est. C'est une guerre d'agression et je condamne également au même moment tous ceux-là qui appuient la M23, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Vous me demandez si c'était une surprise ou quoi. Vous savez que c'est difficile de savoir les agendas cachés. Et effectivement, nous avons comme l'impression que ces mouvements ont des agendas cachés. Et ce qui conforte davantage notre thèse, c'est que il bénéficie des appuis étrangers, notamment du Rwanda et de l'Ouganda, et ce n'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois, il existe un rapport bien détaillé du groupe d'experts des Nations Unies. Mais cependant, j'émets des doutes sur un aboutissement heureux des assises de Kampala. En tout cas, j'ai des doutes que je considère comme légitimes. Pourquoi? Parce que ça fait presque un mois, si j'ai bonne souvenance, depuis qu'on a commencé à parler de ces pourparlers. Tantôt on parle pourparlers, tantôt on parle négociation, sans qu'il y ait des avancées significatives. Donc, je peux de fois que Kampala nous amène la paix. Ça, c'est mon point de vue. Mais également...
Est-ce que cette décision du M23, ce n'est pas une avancée, déjà?
Je ne pense vraiment pas, parce que vous savez, il faut un peu vous mettre dans la peau de nos populations qui souffrent à l'est du Congo. Il faut vous mettre dans la peau des mamans qui sont violées des suites de cette guerre, de ces déplacés qui ne sont toujours pas rentrés chez eux à cause de l'insécurité. Et donc la population, elle est impatiente. La population voudrait voir la paix revenir le plus rapidement possible. Mais que la paix ne revienne pas à n'importe quel prix. Donc la population ne voudrait pas qu'on lui dise, voilà, la paix est revenue, mais que les pays restent balkanisés. Donc, il faut faire attention. Tout en cherchant la paix, il ne faut pas balkaniser le pays. Des revendications, par exemple, comme celle du M23, qui consiste à demander qu'on lui donne la gestion de Goma. Ça, j'avais entendu dans leur cahier des charges, qui ne cesse de développer de jour en jour, parce qu'ils ont finalement des revendications que je considère comme étant des revendications prétextes. La population ne souhaite pas arriver à une situation de balkanisation. Elle est vraiment attachée au sol congolais, au territoire congolais. La population a besoin de la paix. Quelqu'un d'autre peut considérer cela comme un état des avancées. Mon collègue Nsekouye me parle des progrès diplomatiques. Nous tous nous souhaitons que notre diplomatie fasse des progrès, puisque nous sommes des Congolais. Que vous soyez Congolais de la majorité de l'opposition de la société civile, les souhaits, c'est que notre diplomatie soit à la grandeur de notre pays, la République démocratique du Congo. Je disais donc que mon inquiétude, c'est par rapport à la durée déjà de ces pourparlers. Mon inquiétude, c'est par rapport à l'étendue des revendications et au changement pratiquement des revendications, à l'élargissement au jour le jour de ces mouvements, ce qui me laisse penser vraiment à des agendas cachés, des idées derrière la tête. Je constate aussi que le gouvernement n'est pas aussi clair dans l'option qu'il faut lever. Et est-ce l'option militaire? Est-ce l'option politique? Et moi, je crois que devant des gens, face aux gens qui sont à la solde des intérêts étrangers. Je cite ici la M23 à la solde des intérêts du Rwanda et de l'Ouganda. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir une autre solution que la solution militaire. Et je crois que le FRDC devrait lancer des attaques dans le sens d'une contre-offensive déjà au mois de mai. De l'année passée. Donc, à un moment donné, il faut que le gouvernement nous dise, finalement, il penche vers où ? Parce que ça n'est trop. Nous avons de la peine à soutenir, à supporter quelques jours de plus dans cette agression dont le Congo est victime. Mon collègue Nzekouye parle des possibilités, justement, pour les animateurs du M23 et ceux qui appuient la guerre à partir du Rwanda, bref, de l'étranger, qui soit sanctionné, mais il faut que le gouvernement se montre davantage actif en termes de diplomatie. Est-ce que le gouvernement, je pose la question, est-ce
que le gouvernement n'est pas actif, le gouvernement congolais n'est pas actif?
Je vais poser quelques questions. Est-ce que le gouvernement a déjà déposé la plainte contre le Rwanda à la Cour internationale de justice? Est-ce que le gouvernement a déjà officiellement suspendu les relations diplomatiques avec le Rwanda? Donc on attend du gouvernement des gestes forts, qui nous prouve véritablement que nous sommes dans une agression. Les gouvernements devraient se sentir confortés parce qu'il existe les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Ce qui reste pour le gouvernement, c'est de saisir l'opportunité et de demander plus de sanctions contre ceux-là qui agressent le pays. Donc le gouvernement doit agir davantage, je l'ai dit comme député.
Merci, honorable maître Juvenal Mounoubo, honorable Juvenal Mounoubo. Professeur Philippe Bioya, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Comment vous analysez cette décision du M23 de poursuivre le dialogue malgré le refus du gouvernement d'un accord de cessez-le-feu avec ce mouvement rebelle?
D'abord, je voudrais présenter mes voeux le meilleur pour l'année nouvelle à mes co-débatteurs, aux honorables qui sont avec moi à l'antenne, et aussi, en fait, aux auditeurs et à vous-même. Et je pense que la question est mal posée, parce que je ne peux pas comprendre qu'on veuille, on ramène tout le processus de Kampala au cessez-le-feu qu'avait posé comme préalable la M23. Et je crois que si nous discutons sur cette base, nous n'irons même pas loin. Je voudrais peut-être dire, comme les autres l'ont dit, que je constate que nous tous là, le Congo là, nous sommes pris de court par le contexte international. J'ai comme l'impression que les réactions du monde à ce qui se passe à l'est de notre pays, en mise en rapport avec les événements, par exemple, de Centrafrique et la réaction des Africains en général, nous coincent tous. Parce que nous avons accepté le principe d'un dialogue qu'apparemment la communauté internationale semble récuser. Parce que la détermination des Nations Unies, de l'Union africaine, des États-Unis à condamner le M23 et à mettre fin à la situation à l'Est aurait dû, en fait, nous obliger, nous-mêmes, en fait, de nous arrêter un peu et de réagir par rapport à ce nouveau contexte. Est-ce que ça valait la peine que nous allions à Kampala pour nous retrouver, parce que nous sommes tous coincés. La M23 est coincée très visiblement parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent pas parler de prétextes qui n'existent pas. Parce que les cessez-le-feu, ils ne l'ont pas demandé par rapport à la situation qui avait fait qu'ils aillent à Kampala. J'ai entendu dans votre reportage, ils demandent les cessez-le-feu à partir de peur que la M23 a d'une quelconque revanche de la RDC. Donc, c'est que les cessez-le-feu-là n'était même pas en rapport avec les négociations, parce que la M23 se mettait déjà dans la pré-négociation, parce que le gouvernement pourrait ne pas tenir ses engagements. Alors je me demande bien pourquoi et de quoi nous parlons et sur quoi nous parlons. Est-ce qu'il n'est pas temps, en fait, que l'on pose la vraie question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème à partir du moment où la communauté internationale considère que c'était des situations d'aventure?
Alors oui, on va poser cette question, professeur Bioya. Tout à l'heure, vous avez dit que nous étions tous coincés, donc et le gouvernement et les M23. Expliquez-nous un peu comment le gouvernement congolais se retrouve coincé.
C'est parce que le gouvernement acceptait le principe du dialogue parce qu'il trouvait que c'était en fait la voie qui lui coûtait la moins chère. Il n'avait pas le moyen de faire la guerre, il fallait aller dialoguer, et il n'a pas accepté le dialogue pour en fait rencontrer, me semble-t-il, les attentes du M23, mais pour essayer, en fait, de rencontrer tant soit peu les velléités des sponsors, des parrains de la rébellion. Mais est-ce que nous ne pouvons pas considérer que maintenant, il nous faut, comme François l'a dit tout à l'heure là, parler avec le Rwanda? Parce que le Rwanda est lui-même conscient
Parce que le Rwanda est un peu au Conseil de sécurité. Avec tout ce que la pression, la communauté internationale met sur lui, on veut voir comment le Rwanda va utiliser son mandat, qui est le mandat africain, autour, en fait, du problème dans lequel, en fait, il aurait dû ne même pas être élu là-bas. Alors, à partir du moment où le Rwanda est coincé, et que l'Ouganda reste, en fait, seul, est-ce qu'il n'aurait pas été normal que notre diplomatie travaille à clarifier, en fait, la situation et à discuter autrement avec le Rwanda et l'Ouganda pour les engager dans une perspective nouvelle, au lieu de continuer les perspectives de toujours ils sont mécontents, ils créent des mouvements, nous partageons le pouvoir et c'est nous qui nous affaiblissons pendant que eux, en fait, deviennent gourmands, gloutons et veulent toujours avoir plus.
Alors, on va prendre pour vous, professeur Bioya, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Édith Ndilonge à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Je pense que les négociateurs de la partie gouvernementale se trouvant à Kampala doivent tirer profit de la pression exercée contre le M23 actuellement par la communauté internationale pour couper court à toutes les revendications qui ne cadrent pas avec les desiderata du peuple congolais.
En réaction, professeur?
Je pense que c'est pas seulement de couper court. C'est-à-dire que, écoutez, en politique, il faut pas construire sur les humeurs. Nous devons voir quel est le problème que le Rwanda a voulu poser et veut toujours poser à travers, par exemple, le groupe rebelle. Si cette question, c'est la question de la pression démographique, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que le Rwanda trouve qu'il n'y a pas assez d'espace. Est-ce que il faut résoudre ce problème en oubliant que la RDC aussi est un pays sous pression démographique, parce que nous sommes un pays à démographie sans cesse croissante. Et cette, notre démographie ne cherche peut-être pas des espaces, mais cherche des travaux, cherche de l'emploi. Mais le Rwanda, qui a aussi un problème de la relation avec les terres, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'espace, devrait constituer un agenda commun avec la RDC pour que nous voyons comment ce problème de pression démographique sur le Rwanda et sur la RDC peut être résolu. Donc, il y a quand même des problèmes derrière, peut-être, en fait, des gestes qui nous paraissent, en fait, irrationnels, qui nous paraissent illégitimes. Donc, on ne peut pas dire que, en fait, le Rwanda et l'Ouganda, qui ont fait un mauvais choix d'instrumentaliser la M23 aujourd'hui, vont se contenter, effectivement, de leur échec maintenant. Parce qu'il faut savoir que la politique internationale évolue par vagues. Ils vont certainement faire un peu les surpris, mais entre-temps, ils imaginent d'autres choses. Alors, nous n'allons pas les laisser imaginer encore des autres façons de nous nuire davantage. Merci. Cherchons à résoudre le problème et identifions, nous, Congolais, les problèmes qui poussent le Rwanda et l'Ouganda à chercher tout le temps à nous déranger.
Merci, professeur Philippe Bioya, honorable François Nzekouye. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que le gouvernement congolais négocie maintenant avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais lorsque les rapports des experts des Nations Unies a cité plusieurs fois le Rwanda et l'Ouganda comme étant les gens qui étaient derrière le mouvement M23, pourquoi le gouvernement n'a pas demander de négocier directement avec les Rwandais, mais il a accepté de négocier d'abord avec le M23.
Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que beaucoup de voix s'étaient élevées pour crier ça et là que les accords du 23 mars 2009 n'étaient pas respectés. Et donc, il nous était quand même un devoir moral de devoir nous expliquer quelque part sur l'accomplissement des accords du 23 mars 2009. Et l'occasion nous a été donnée par ces dialogues. Et nous étions disposés à discuter que de ça. Bien évidemment, il pourrait en résulter des conséquences sur ce que les présidents de CIRGL ont considéré comme des revendications légitimes. Des revendications légitimes liées à l'accord du 23 mars 2009. Et cet accord qui est considéré par beaucoup de gens comme étant légitime, il y a deux choses qui me paraissent sensées de mon point de vue. C'est le fait de considérer la province du Nord Kivu et du Sud Kivu comme des provinces sinistrées et qu'on devait donner des moyens aux Starek pour remettre les provinces au même diapason que les autres. Ça, c'est une revendication légitime que nous partageons avec tous les Congolais, y compris ceux du M23. Il y avait aussi la question des réfugiés, mais qui est malheureusement aggravée par le M23, parce que partout où le M23 est passé, ils n'ont fait que piller les matériels de la CENI pour pouvoir imprimer des cartes d'électeurs à des personnes qui ne sont pas congolaises. Et cette complication est de la responsabilité du M23, parce que si on se pose la question de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, dès lors qu'ils ont pillé le matériel de la CENI et ils ont imprimé des cartes à des citoyens qui ne sont pas congolais, et donc c'est une préoccupation qui qui doit être répondu par le M23 et ils doivent nous expliquer là-dessus. Il faudrait aussi que le M23 nous explique en vertu de quoi ils ont pillé les matériels qui a été affectés aux travaux routiers, les biens des privés. Ils ont des comptes
mais
à rendre à la République.
Il faut dialoguer. Le gouvernement ne peut plus dialoguer avec un mouvement considéré comme force négative.
Oui, j'ai dit à son temps, parce qu'on avait demandé pourquoi le gouvernement a accepté. Parce que le M23 est déclaré comme force négative par les Nations Unies à partir du 1er janvier 2013. Et le dialogue a commencé avant.
Et maintenant,
et donc aujourd'hui,
le gouvernement va
dialoguer avec le Rwanda. Aller dans le sens dialoguer avec le Rwanda. Demander aussi des comptes. Quand les gens dialoguent, ce n'est pas c'est faire des cadeaux. Il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Quand nous allons nous mettre face à face avec le Rwanda, c'est demander des comptes au Rwanda. Parce que depuis 93, avec les génocides qui a été causé au Rwanda, il faut qu'on en détermine aussi les auteurs un jour. Parce que les personnes qui sont jugées aujourd'hui par les TPIR ne sont pas nécessairement les seuls acteurs de ces génocides. Il faudrait qu'on dise qui a tué Habyarimana, qui a tué Ndadaye et qui a occasionné ces génocides, qui a amené des flux de gens au Congo. Donc le Rwanda doit nous répondre par rapport à la présence des FDLR qui tuent nos frères et non pas les Rwandais.
Alors,
au Congo.
Une petite question rapidement, François. Comment sont les relations diplomatiques aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda?
Les relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe parce que nous avons rappelé notre ambassadeur depuis le début de ces conflits. L'ambassadeur de la RDC au Rwanda est ici à Kinshasa et n'a jamais plus remis les pieds au Rwanda. Contrairement à la volonté, au souhait de mon collègue qui n'est peut-être pas informé par rapport à cette question. Nous avons déjà déposé une plainte à la Cour de justice internationale contre le Rwanda. Et même à la CPI à l'époque. À la CPI, vous rappellerez que le Rwanda n'a pas été condamné parce qu'il n'est pas signataire des statuts de Rome.
Merci.
Mais nous avons d'autres mécanismes qui vont nous permettre de continuer à poursuivre le Rwanda, notamment si le Conseil de sécurité des Nations Unies arrive à la traire à la justice, le Rwanda pourra répondre. C'est le cas d'ailleurs avec Béchir du Soudan qui ne sont pas signataires de cet accord, mais qui pourront être attirés au niveau de la Cour pénale internationale.
Merci, honorable Nzekouye. Maître Juvenal Mounoubo, l'Union africaine vient d'adopter à Addis Abeba la mise en place d'une force internationale autour de 4000 hommes dans l'est de la RDC. On sait qu'à un moment, il y avait une divergence des vues entre la CIRGL et la SADC par rapport à la composition même de cette force. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'ils se sont mis d'accord par rapport aux éléments ou aux forces qui doivent composer cette force internationale neutre?
Madame, je suis d'accord que la question congolaise elle est complexe et que le Congo doit être aidé pour la résoudre. Ça, je suis d'accord. Mais bien entendu que le Congo doit faire le premier pas. Je reste toujours convaincu. Je ne me contredis pas. Mais j'ai aussi des inquiétudes par rapport à la force internationale neutre. Depuis qu'on a commencé à parler de la force internationale neutre. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Lorsque vous suivez les premières déclarations par rapport à cette force internationale neutre, le lieu de déploiement, j'étais vraiment sceptique par rapport à ça, parce qu'on disait que la force internationale neutre, souvenez-vous, devrait se déployer à Walikale, à Masisi, à Beni, à Rwenzori. Et si vous voyez très bien sur la carte, eh bien la force internationale neutre ne se déploierait pas à Rutshuru. Parce que nous savons la zone contrôlée par l'M23. Déjà à partir de ça, je ne sais pas par quelle tactique militaire, je ne suis pas un tacticien militaire bien entendu, mais qu'il se déploie ailleurs et hormis dans la zone contrôlée par l'M23, c'était pour moi un sujet déjà d'inquiétude pour cette force internationale neutre. Je pense qu'au-delà de la force internationale neutre, et ça, le gouvernement devrait demander ça. Notre diplomatie, les ministres des Affaires étrangères devraient demander ça avec insistance, qu'il y ait une force du genre Artemis. Dans l'histoire de notre pays, l'Ituri a connu des problèmes. Et une force avec mandat, créée sur base des résolutions du Conseil de sécurité, l'Artemis, j'ai cité, cette force nous a aidé à ramener la paix le plus rapidement possible dans cette partie du territoire. J'ai parlé de l'Ituri. Donc, il faut une force comme celle-là. Pas une force qui vient juste se mettre là-bas, et dont on ne connaît pas clairement les mandats, la durée, la coordination sur terrain. Il faut savoir qu'il y a déjà une autre grande force, beaucoup plus grande que la force internationale neutre. C'est la MONUSCO. Qu'est-ce qu'on dit de la MONUSCO? Plusieurs propositions ont été données dans le sens du renforcement du mandat. Où est-ce que nous en sommes? Je crois qu'il faut demander ça. Créer par résolution des Nations Unies, une force avec des capacités opérationnelles bien définies, comme Artemis, avec une mission bien définie, sachant bien qu'elle commence les opérations à partir de X dates, et à partir de Y dates, on peut évaluer et arriver à une solution idoine. Voilà un peu ma position par rapport à ça. Et puis on disait aussi autre chose, je vais terminer par là. On disait que les FRDC ne feraient pas partie, en tout cas n'accompagneraient pas la force internationale. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Comment est-ce que des étrangers peuvent venir sur le territoire congolais, chasser les forces négatives, sans que les FRDC, qui sont censés connaître les territoires congolais, ne soient pas avec, ne serait-ce que pour les accompagner. Ça aussi, ça a constitué pour moi un sujet d'inquiétude. Il faut faire attention. Je n'y crois pas tellement. Je suis convaincu que les étrangers peuvent nous aider à résoudre les conflits congolais, mais il faut réfléchir suffisamment. Il faut savoir quel type de solution qui paraît beaucoup plus appropriée. Et à mon sens, je crois que mieux que la force internationale naître, il faut demander une force du genre Artemis, créée, comme je le disais, à partir de New York, sur base d'une résolution. Je crois que celle-là peut avoir plus de résultats que la force internationale naître. Et je pense que ça, ils sont tombés quand même d'accord sur ça. Pas question pour des pays avec qui le Congo a une histoire pas très bonne, de faire partie de cette force internationale à créer. Mais je crois qu'il faut vraiment pousser les idées loin et aller vers ça. Ça pourra nous aider.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit, deux qui sont gagnés en province orientale, Pepe Lissungui qui dit ceci, ne voyez-vous pas que l'Union africaine, la CIRGL et même l'ONU tous nous distraient avec cette décision. Ces trois structures reconnaissent déjà que le dialogue qu'eux-mêmes ont créé en Kampala n'aboutira à rien. Ouvrons les yeux, laissons cette histoire des forces neutres. Même le dialogue de Kampala, il ne faut pas y croire. Faisons plutôt le dialogue interne entre Congolais, comme l'a proposé le chef de l'État lors de son discours du 31 décembre.
Je voudrais d'abord préciser ici que le président de la République n'a fait qu'accepter à la demande formulée par l'opposition. Je rappelle ici que l'Union pour la Nation Congolaise était la toute première formation politique à avoir demandé un dialogue national inclusif pour décrisper le climat politique. Il ne faut pas qu'on soit de courte mémoire. Et ça, c'était parce que le climat politique était tendu, comme vous le savez, resté d'ailleurs tendu, après l'organisation des élections du 28 novembre 2011. Et donc, nous sommes contents, je dois dire ça, que les chefs de l'État aient accédé à notre demande. L'Union pour la Nation Congolaise était le premier parti à exprimer ses besoins. Les autres partis l'ont rejoint. Et que si le chef de l'État a accepté cela, c'est pour nous un motif de satisfaction. Mais il faut aller effectivement vers ces dialogues et ces dialogues internes, auquel le M23 ne doit pas participer de près ou de loin, ne doit pas être à ces dialogues. Un dialogue qui ne consisterait pas à partager les postes, parce que le pouvoir politique n'est pas un gâteau à se partager, mais un dialogue où on doit se dire des vérités. Merci. Ou un dialogue où on doit proposer des pistes et des solutions pour corriger un peu ce qui se passe dans nos forces armées, renforcer nos forces armées, renforcer notre diplomatie, parce que nous sommes tous des Congolais et à un moment donné, nous devons nous aider, nous entraider, échanger des
idées. Merci Maître Juvénal Mounouvo, professeur Philippe Bioya. La force internationale neutre est-elle une solution à cette crise de la RDC?
À condition qu'elle ne soit pas une force d'interposition entre le M23 et le FARDC. Parce qu'en ce moment-là, elle serait une force pour le statu quo, en fait, de guerre. Et je pense que nous devrions, en fait, rappeler que nous avons besoin, effectivement, d'une force internationale qui soit entre le Rwanda et la RDC. Et ça doit être suffisamment clair. Et nous devons travailler avant tout pour que le déploiement de la force soit postérieur à la résolution de la crise. C'est-à-dire qu'au moment où on déploie la force, il faut qu'on ait obtenu effectivement la renonciation du M23 ou du Rwanda et l'Ouganda à travers le M23 à des prétentions qui sont à la base de l'agression. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'en fait le M23 sert de faire valoir et que la négociation se passe sans dire son nom entre l'Ouganda et le Rwanda sur le plan international et que l'Union africaine, comme les Nations unies, interviennent pour arbitrer les prétentions du de l'Ouganda et de l'Ouganda, et ils estiment que les positions occupées par le Rwanda et l'Ouganda doivent être, en fait, provisoirement conservées le temps qu'on cherche la solution. Tu vois, ça serait une mauvaise approche. Et je suis d'accord avec l'honorable Juvénal lorsqu'il dit qu'une force d'interposition ne doit pas venir condamner, en fait,
la défense nationale congolaise et l'action congolaise, en fait, de gérer son propre territoire. Parce que si la force d'interposition est sur un territoire congolais que l'armée ne sait pas contrôler, c'est que nous sommes dans une situation de fait d'un état, d'un espace tampon entre pays. Or, nous ne voulons pas, en fait, des territoires tampons. Parce que le Rwanda voudrait, à partir de Rutshuru, créer un état tampon. Donc, il ne faut pas que notre diplomatie se contente, en fait, des victoires qui ne sont pas les siennes. Je pense qu'il y a encore du temps à travailler.
Oui, professeur, vous avez parlé de... vous dites que vous êtes d'accord avec cette force à condition qu'on trouve d'abord une résolution à la crise et qu'on obtienne une renonciation du M23 appuyé par le Rwanda et l'Ouganda. Mais comment obtenir cette renonciation de ce mouvement rebelle?
Je crois qu'on devrait aujourd'hui, très objectivement et très sincèrement, si l'on aime vraiment, si l'on veut restaurer la paix dans la région et l'intégrité du Congo, encourager la solution interne. Comme le président a demandé qu'il y ait un dialogue, on doit verser les pourparlers de Kampala dans le dialogue entre Congolais, question en fait d'étudier la pédagogie de ce dialogue, pour que nous n'ayons pas à discuter des problèmes de souveraineté avec des Congolais. Parce qu'à Kampala, nous sommes en train de discuter de problèmes de souveraineté entre Congolais. C'est pas possible que les Congolais, entre Congolais, discutent de problèmes de souveraineté, de l'intégrité de leur territoire. C'est comme s'ils discutaient avec l'étranger. Tu vois, c'est ça qui embête. C'est pourquoi je dis que nous sommes tous coincés. Alors, nous devons nous-mêmes à Kinshasa avoir le courage de rappeler tout le monde à l'interne, même s'il faut qu'à l'interne, qu'il y ait des observateurs et neutres, on n'ira plus à l'étranger, mais chez nous-mêmes, avec tout le monde, pour qu'on voit ce qui est réellement interne, ce qui n'a rien à voir avec la frontière, ce qui n'a rien à voir avec la souveraineté. Entre-temps, notre diplomatie, eh bien, avec les Nations Unies, travaillerons à voir comment nous pourrons sauvegarder notre souveraineté dans ce rapport avec la souveraineté des autres. Donc, j'ai l'impression que nous mélangeons les agendas.
Merci, professeur. Maître Adrien Elubakwe de Kananga au Kassa Occidental. La résolution de l'Union africaine prouve à suffisance que les pourparlers de Kampala n'est qu'une distraction. Donc, l'armée congolaise peut déjà se préparer à la guerre, car rien de bon ne sortira de Kampala. Maître Jean-Paul Lumbulumbu de Goma au Nord Kivu, la signature du cessez-le-feu unilatéral par le M23 n'est aucunement un événement, même si Kinshasa en a pris acte. En effet, on ne se bat pas en dialoguant. Le dialogue et les hostilités sont deux concepts diamétralement opposés et les belligérants de la crise de l'Est du pays devraient cesser de tromper le peuple dans la diversion. L'acceptation par le M23 et le gouvernement d'aller à la table des négociations à Kampala vaut tacitement le cessez-le-feu. François Nzekouye, la solution à cette crise du Nord Kivu est-elle interne?
Elle est interne et externe. Et elle est interne en ce sens que nous devons renforcer nos forces de défense, les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, pour que les frontières de la République démocratique du Congo soient préservées. Mais en attendant que nous arrivions à un niveau où nos forces armées sont capables de défendre toutes nos frontières, parce qu'il faut reconnaître que la communauté internationale est aussi auteur de la fragilisation de nos forces armées quand ils acceptent des mixages avec des personnes civiles qui ont juste appris le maniement des armes, qui sont devenus des généraux et ont participé à la gestion de l'armée, nous ne pouvons pas espérer que cette armée soit à même de défendre nos frontières en si peu de temps. Donc, je dis, il y a, oui, l'aspect interne. L'aspect externe, c'est au niveau international. Aujourd'hui, nous savons que le pays est agressé et nous savons qu'il y a des pays qui ont une influence sur les agresseurs. Je les cite, le Rwanda et l'Ouganda. Et les pays qui ont une certaine influence sur eux ou une grande influence sur eux, c'est notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il faut qu'on pousse ces pays au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies d'accepter que l'on impose au Rwanda des sanctions claires pour que le Rwanda, se sentant asphyxié par ces sanctions, puisse cesser tout appui ou toute manœuvre dans le sens de s'attaquer à la République démocratique du Congo. Mais aussi, je voudrais quand même réagir sur quelques propos. J'ai entendu un certain monsieur Paul Ndézé qui s'est targué d'être chef coutumier de la chefferie de Bouisha et qui demandait de cesser le feu au nom tous les ressortissants de Rutshuru. Nous ne les reconnaissons pas. Nous savons que le Mwami de Bouisha est Dieudonné Ndézé et il n'a pas été mandaté, même si pour des raisons personnelles il est à côté du M23, il ne peut pas engager la République, encore moins la communauté dont il est originaire. En même temps, j'ai dit
quand mon collègue Juvenal Mounoubou dit que les déploiements des forces neutres ne devraient pas être au niveau de Rutshuru, c'est une question stratégique. Dès lors qu'on va aller attaquer les M23, on ne va pas demander son avis pour que la force neutre s'installe à Rutshuru. Il faudrait qu'on soit en périphérie de Rutshuru pour s'attaquer au M23. C'est la simple raison qui fait que cette force doit se mettre en dehors de Rutshuru pour attaquer les M23 qui sont à Rutshuru. En même temps, je disais que cette force neutre doit être sous le mandat de la MONUSCO, qui va voir bientôt, je me répète, son mandat c'est mieux à une force d'imposition de la paix, et ce qui lui donnera plus de possibilités de pouvoir agir contre ce mouvement rebelle. Mais nous espérons, comme je le disais, que la solution sera interne et externe, et nous appelons tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, à appuyer la RDC, parce que sans la RDC, l'Afrique centrale ne pourra pas se développer.
Merci, honorable Nzikwe, Robert Baomé de Bukavu, Sud-Kivu. Les pourparlers de Kampala et l'envoi de la force internationale neutre des 4000 hommes, c'est bien, mais la réforme, la réorganisation des services de sécurité et de l'armée nationale, c'est mieux comme solution efficace aux problèmes sécuritaires du Nord Kivu et de l'Est de la RDC. En général, Kipu Kajaps de Mobao Katanga, à quoi servirait une force neutre si elle ne peut pas empêcher l'ennemi d'agresser le pays? Nous avons besoin d'une armée patriotique, forte, motivée, sans traître. C'est la solution la plus évidente. Sinon, on négociera à jamais. Brève réaction, honorable Juvenal Mounoubou.
Celui qui compte sur l'armée comme solution, je lui donne raison à 100%, parce que les armées des États, ce sont les remparts pour les nations depuis la nuit des temps. Et nous aussi, les Congolais ne doivent pas faire exception, c'est que nous devons compter sur nos forces armées. Raison pour laquelle il faut investir dans les FARDC. Il faut payer les soldes qu'il faut aux militaires, les équipements qu'il faut. Eh bien, il faut encadrer les militaires. Il faut aussi encadrer les familles des militaires pour que les militaires se sentent motivés. Je crois que par rapport à ce qui se passe à Kampala, je crois qu'il faut délocaliser les assises. Il y a aussi ce débat-là de la délocalisation. J'aimerais qu'au cours de cet entretien qu'on en parle. Je crois que Kampala n'inspire plus confiance. Il faut délocaliser les lieux des assises. Surtout que l'Ouganda doit passer le flambeau, comme vous le savez, de la CIRGEL à un autre pays. Pourquoi ne pas aller ailleurs? Il y a d'autres capitales qui seraient prêtes à accueillir les assises, parce qu'on ne peut pas aller négocier dans un endroit où on a beaucoup de doutes, hein, parce que le pays, l'Ouganda, est aussi cité parmi les pays agresseurs de la RDC. Il ne faut pas oublier ça. La question de la force internationale neutre, je disais tantôt ici que l'Artemis, pour moi, une force du genre Artemis, même si elle ne s'appelle pas Artemis, ça serait la meilleure. Mais je crois que cette force internationale, il faut que l'Assemblée nationale examine aussi ce projet.
Alors, il reste deux minutes pour terminer l'émission, je vais vous demander de conclure.
Parce qu'il faudrait aussi qu'on respecte la Constitution. Parce que l'article 213, in fine, de la Constitution, pour des accords internationaux non soumis à ratification, eh bien, l'Assemblée nationale est à tout le moins informée. Nous devions être informés, nous, députés nationaux, et examiner toutes les conditionnalités liées au déploiement d'une telle force, avant son déploiement.
Merci, Maître Juvenal Mounoubou. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Professeur Bioya, en une minute, votre dernier mot, votre conclusion.
Je pense que nous avons dit que la solution, à mon sens, est interne. Elle doit être interne à partir du moment où la communauté internationale appelle à la fin vraiment de tout ce qui s'est passé jusqu'ici à l'Est. Et il ne faut pas que nous légitimions en fait cela en continuant à négocier avec les autres. J'ai aussi dit que les 2023 ayant servi de faire valoir, le niveau international dont on parle demande un travail diplomatique avec le Rwanda. Et je pense que pour avoir une force multinationale, il faut la réqualification de ce Conseil de sécurité, et c'est le Congo qui doit demander que ce travail se fasse. Il ne faut pas que nous nous contentions de ce que les autres disent.
Merci.
À notre place.
Merci, professeur. Un mot, honorable Nzekui, en guise de
conclusion. Je rappelle simplement à tous les Congolais l'article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace, à une agression extérieure. Et donc, jeunes Congolais, enrôlez-vous dans l'armée pour une meilleure défense de la République.
Merci, honorable Nzekouye. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté et Samuel Katiak, sous la supervision de Julien Nyamouni. Merci à Sylvain Matundu, qui était à la technique au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.